Nous abordons aujourd'hui les prophètes de la restauration. Le mot de restauration dans ce titre que je donne à notre étude pour ce mois-ci et pour le mois prochain est à prendre dans deux sens. D'une part, c'est le nom que porte la période historique à laquelle ont vécu les deux hommes que nous allons considérer. Comme en France, vous savez, qu'il y a eu une période dite de la Restauration après Napoléon, quand la monarchie a été rétablie en France. De même, on parle d'une période de restauration pour les décennies qui ont suivi l'exil à Babylone dans l'histoire d'Israël. Le peuple, je vais le rappeler dans quelques instants, nous l'avons vu ensemble en étudiant des livres prophétiques antérieurs l'année dernière, le peuple d'Israël a été déporté en Babylonie, l'Irak actuel, en gros pendant 70 ans. Les prophètes avaient prédit qu'ils reviendraient et il y a eu une restauration qui a commencé après la fin des 70 ans et on appelle la période restauration. Dieu se plaît à envoyer dans les époques historiques diverses des témoins par deux ou trois. Tout se décide sur la parole de deux ou de trois témoins. Alors on remarque que très souvent les grands hommes de Dieu ont surgi dans l'histoire par paire ou parfois par trio. Et dans cette époque de la restauration, Dieu a envoyé deux prophètes qui ont confirmé mutuellement le message qu'ils apportaient, Agée et Zacharie. Et c'est ces deux prophètes que nous allons considérer. Et puis le mot de restauration est aussi approprié pour le contenu de leur message. Ils ont été des prophètes exhortant à la reconstruction, au redressement de la conduite, à une véritable restauration de la vie spirituelle du peuple de Dieu. Donc ils ont vécu à l'époque qu'on peut appeler de la restauration, et ce mot de restauration caractérise aussi leur message. Mais avant de parler d'eux, il me semble utile que je récapitule ce que nous avons vu ensemble, que je dessine à nouveau le cadre général dans lequel cette étude des prophètes s'inscrit. Je crois que cela rafraîchit la mémoire à tout le monde, que ce n'est jamais inutile. Les prophètes sont des porte-paroles de Dieu qui, toujours, proclament un message dans une situation donnée, précise. C'est ici ou maintenant, là-bas et alors, qu'ils parlent. Ce n'est pas intemporel, c'est toujours lié à une situation donnée. Et les prophètes de l'Ancien Testament que nous étudions dans cette série d'instituts bibliques se situent entre Moïse et Jésus-Christ. Moïse, au XIIe, XIIIe siècle avant Jésus-Christ, selon les dates probables au moins, et puis Jésus-Christ donc au début de l'ère dite chrétienne. Les prophètes se situent dans cette période de plus d'un millénaire, qu'on appelle aussi la période de l'Ancienne Alliance, tout en ayant préparé les choses déjà avec Abraham, avant Moïse, bien avant Moïse. C'est par l'intermédiaire de Moïse que Dieu a établi l'Ancienne Alliance. Moïse a été le médiateur de ce régime que Dieu a institué pour préparer la venue de Jésus-Christ. L'Ancienne Alliance était une sorte de système provisoire qui répondait aux besoins spirituels des hommes de cette époque, mais qui en même temps était conçu par Dieu dans son grand dessein pour toute l'histoire, comme le temps de la préparation de la venue de Jésus-Christ et comme le temps d'une préfiguration de ce que Jésus-Christ allait faire et instaurer à son tour. Ce régime de l'Ancienne Alliance, qui a été établi par le moyen de Moïse, s'est réalisé, pourrait-on dire, de manière progressive. Avec Moïse, l'Ancienne Alliance a été inaugurée. sa charte a été promulguée, mais ce n'est qu'au bout d'un certain temps que le pays, promis en association avec les clauses de l'alliance, que le pays promis a été effectivement conquis sous la conduite de Josué. Il a fallu d'abord les 40 années dans le désert. Et puis quand Dieu a permis une pleine installation, qu'il a donné du repos au peuple qu'il avait choisi dans ce pays, alors c'est la royauté qui, avec Saül, premier essai qui a mal tourné, et David, a été fondée. Donc vous avez le trône. Et puis, après le règne de David, alors un élément tout à fait essentiel, le temple. Qui a été construit par Salomon, après que David avait fait tous les préparatifs, déjà amassé les matériaux, prévu le budget de l'affaire. Salomon a construit le temple, et le temple était au cœur de la vie du peuple d'Israël. C'était le lieu où Dieu avait choisi de faire résider son nom, d'être rencontré par tous ses adorateurs. C'est là où les sacrifices étaient offerts, et en particulier le sacrifice du grand jour des expiations, le Yom HaKippurim, comme les Juifs aujourd'hui disent Yom Kippour, qui, d'une manière représentative, parce que le sang des taureaux et des boucs n'était pas capable d'effacer les péchés, mais d'une manière représentative, symbolique, effacer les péchés de toute l'année. Le temple, donc, a été construit plusieurs siècles après Moïse. Avec la construction du temple, on peut dire que l'ancienne alliance avait tous ses instruments, enfin bien établis. Mais c'est à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Les choses se sont gâtées sans doute dans le plan de Dieu pour montrer que si l'homme a une part, ça se gâte. Dans l'ancienne alliance, il y avait une part, semblait-il au moins, pour les œuvres des hommes. Profitant des privilèges même que Dieu leur avait accordés, les Israélites se sont gonflés d'eux-mêmes, les Israélites se sont laissés assoupir spirituellement, ils se sont mis à loucher vers les cultes idolâtres de leurs voisins. Et après Salomon, et déjà à la fin du règne de Salomon, on observe une déviation progressive. Et les prophètes sont intervenus pendant le temps de la royauté pour rappeler les exigences de la loi, pour annoncer les jugements qui allaient forcément s'abattre à cause des péchés du peuple et surtout des grands et des rois. Et aussi pour dire que par-delà les désastres que la mauvaise conduite des Israélites, puis ils se sont séparés en deux royaumes, Israël du Nord, puis Juda au Sud, donc des Israélites et des Judéens, que la mauvaise conduite des Israélites et des Judéens allait attirer, par-delà les catastrophes, Dieu n'abandonnerait pas son projet, mais qu'il susciterait un descendant de David, celui qu'on appelle le Messie, qui restaurerait pleinement et établirait une nouvelle alliance. Celui qui a prononcé ce mot de nouvelle alliance, c'est Jérémie, un prophète qui a prophétisé dans les dernières années du 8e siècle, les dates en 720, 710, 700, puis, non, excusez-moi, du 7e siècle, les dates en 620, 10, etc., et puis le début du 6e siècle, les dates en 590. Et la vie de Jérémie, qui a annoncé cette nouvelle alliance, a été aussi le théâtre de la réalisation des châtiments que Dieu avait annoncés. Après bien des péripéties que nous avons vues l'an dernier, mais je résume, le royaume de Juda, capitale Jérusalem, à son tour a cessé d'exister. Sous les coups des Babyloniens, qui ont constitué comme le fouet de Dieu l'instrument de sa justice, le royaume a cessé d'exister. Le dernier roi a été emmené captif, enfin le dernier dans la ligne tout à fait droite, parce qu'il y a un autre qui lui a été carrément tué, qui a régné quelques années après et dont les yeux ont été crevés. Il y a eu donc des désastres terribles pour la royauté et le temple où Dieu avait décidé de faire résider son nom a été détruit. 585. On pourrait dire que le signal était déjà donné de la fin de l'ancienne alliance. Le temple et la royauté, le temple et le trône, les deux institutions les plus glorieuses de l'ancienne alliance étaient maintenant en ruine. Et le prophète Jérémie osait annoncer une nouvelle alliance. Au chapitre 8 de l'épître aux Romains, l'auteur inspiré par Dieu de cette épître dit, en disant il va y avoir une nouvelle alliance, Jérémie rend l'ancienne vétuste. Si vous préférez, elle prend un coup de vieux. Du moment qu'il annonce une nouvelle alliance, il est clair que l'ancienne ne va subsister que par sursis, mais qu'elle n'a plus de véritable avenir. Je pense que c'est cela le sens de ce que nous trouvons au chapitre 8 de l'Épître aux Hébreux. Le prophète Jérémie a cependant annoncé qu'après ce temps de désastre, avec la déportation d'une bonne partie du peuple et de toute l'élite, en particulier en Babylonie, 70 ans après, il y aurait un retour et que Dieu commencerait d'accomplir son plan de restauration. Alors c'est ce qui s'est passé effectivement. Les Babyloniens ont été vaincus à leur tour par Cyrus, qui avait fédéré, Cyrus le Grand, qui avait fédéré sous son commandement les Mèdes, guerriers montagnards, et les Perses, administrateurs habiles. Et les Mèdes et les Perses unis sous Cyrus sont devenus les maîtres du Moyen-Orient. Un empire médo-perse a succédé à l'empire babylonien. C'est en 539 que Babylone a été prise par Cyrus, et en 538, très peu de temps après avoir ainsi établi son pouvoir sur toute cette région du monde, Cyrus a signé un édit autorisant le retour des déportés de Juda et de tout Israël dans la terre de leurs ancêtres. Donc après 70 ans, a commencé un temps, 70 ans en gros, vous voyez, ça a une valeur de chiffre rond et aussi une valeur symbolique, a commencé donc une restauration. Des caravanes sont reparties. Sur plusieurs années, ça a fait environ 50 000 personnes, surtout des tribus de Juda et de Lévi, mais avec quelques individus au moins des autres tribus, de telle sorte que ce retour a été considéré comme le retour pour l'ensemble d'Israël, pour les 12 tribus. Donc les caravanes sont revenues. Dans ces caravanes, il y avait Agé et Zacharie, d'après les indications données. Les rapatriés sont arrivés dans leur pays, leur petit pays, qui était un fragment de l'immense empire médo-perse. Et puis, ils ont demandé l'autorisation de commencer à reconstruire le temple. Ils ont rétabli l'autel des holocaustes, là où on offrait les victimes des sacrifices. Ils ont voulu commencer à rebâtir le temple, mais les voisins, des gens qui étaient restés au pays et des populations d'origine païenne qui s'étaient établies, les païens ne l'ont pas entendu de cette oreille, les ont bloqués dans leur travail et ils ont dû abandonner la construction en 536 de ce temple qui avait été détruit en 587 et qu'ils espéraient pouvoir rebâtir, mais ils n'ont pas pu, ils ont laissé tomber la restauration du temple de l'Éternel à Jérusalem, donc après les 70 ans. Et c'est à ce moment-là, après quelques années qui se sont écoulées, que Dieu a suscité deux témoins pour réveiller les responsables en particulier et toute la communauté de ceux qui étaient revenus et qui s'étaient rétablis à Jérusalem. La première prédication de réveil est datée avec une extrême précision. Il y a rarement des dates aussi précises dans la Bible, mais d'après les spécialistes, il semble qu'on puisse dire, voilà, ça fait tel jour dans notre calendrier, le 29 août 520. Le 29 août 520, Agé prend la parole en public de la part de Dieu, et c'est le début d'un grand mouvement où il est secondé, assisté par Zacharie dès le mois d'octobre de cette année 520 avant Jésus-Christ, de telle sorte que les travaux du temple reprennent, le temple sera achevé en quelques années, et que donc l'œuvre de restauration repart pour cette population rentrée du pays. Vous situez donc les deux prophètes, Agé et Zacharie, qui sont les prophètes de ce temps-là. Alors je vais aujourd'hui, c'est là le projet que j'ai formé en tout cas, je vais aujourd'hui vous présenter les deux hommes et résumer le message d'Agé. Nous n'avons pas le temps pour le message de Zacharie, qui est bien plus fourni, et donc nous lui consacrerons une deuxième séance. Mon idée, je vous en fais part, mon idée pour la suite de cette année et la suivante, je pense que nous pourrons nous contenter d'une séance pour Malachie, le dernier prophète qui est venu un siècle après. Donc c'est encore une autre période. Pour Malachie, le dernier prophète, et puis que nous pourrions prendre une séance pour toutes les questions qui peuvent vous rester sur l'étude de tous ces livres prophétiques. Depuis deux ans, souvent nous manquons de temps à la fin de l'heure pour les questions, et puis les questions ne viennent pas toujours immédiatement, donc je pense, si ça vous plaît en tout cas comme idée, que nous pourrions, après la séance, éventuellement les séances, mais enfin je pense, la séance consacrée à Malachie, nous pourrions avoir une séance de dialogue, de questions, et puis j'essaierai de répondre, je n'ai pas de réponse à tout, hein, mais j'essaierai de répondre aux questions que vous auriez préparées. Vous pourriez d'ailleurs m'en donner aussi par écrit à l'avance. Alors je ne sais pas s'il y aura des instituts bibliques communs qui vont s'intercaler dans le calendrier de cette année. Je ne sais pas où cela nous mènera. Après la fin de cette série sur les prophètes, nous verrons ensemble quel sujet vous intéresse. Donc nous déciderons à ce moment-là. Je lis maintenant le premier chapitre du livre d'Agé. Je lis dans la Bible du Semeur. Je vais commenter d'autres éléments du livre d'Agé que ce qu'on trouve au premier chapitre, mais je ne vais quand même pas te lire tout le livre maintenant. Donc, je lis seulement Agé 1. La deuxième année du règne du roi Darius, le premier jour du sixième mois, c'est là le 29 août 520, d'après les calculs qu'on a pu faire. Le roi Darius, c'est le roi Darius Istap. C'est pas le même que dans le livre de Daniel. Dans le livre de Daniel, il y a Darius le Mède, qui est sans doute le même que Cyrus. C'est un autre nom de Cyrus. Nous en avons parlé l'an dernier. Ce Darius, c'est un autre, qui est venu après. Après des troubles, après que le successeur de Cyrus, Cambyse, est mort, je crois simplement, en 522, c'est Darius, surnommé Istap, qui a pris le pouvoir, qui a été intronisé sur le trône royal perse, et donc c'est lui qui est ici en cause. Donc la deuxième année du règne du roi Darius, premier jour du sixième mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Yotsadak, le grand prêtre, par l'intermédiaire du prophète Agé. Donc il y avait à la tête de la communauté deux personnages principalement. Un qui représentait le pouvoir royal, et l'autre qui représentait le sacerdoce, C'était le grand prêtre. Je mentionne très, très brièvement ce qu'il en est surtout du premier. Pour le deuxième, c'est assez clair, puis nous reparlerons de lui aussi en étudiant Zacharie. Zorobabel était donc là le commissaire du gouvernement perse. C'était le gouverneur au nom de Darius. Il n'était pas indépendant du tout. Mais c'était un judéen. C'était un prince de la dynastie de David. Il était un des descendants du roi Joachim qui avait été emmené captif à la cour de Babylone. Il était le fils de Shealtiel, et Shealtiel était lui-même parmi les fils de, d'après le premier livre des chroniques, je cherche la référence, j'ai dû la noter quelque part, était lui-même, d'après le premier livre des chroniques, un fils de Joachim. Alors il y a quelques petits problèmes, parce qu'il y a aussi un autre nom qui est donné d'un autre fils de Joachim. Pour lui, cela suggère qu'il y a peut-être eu le système du Lévira qui a marché, qu'il a été considéré comme le fils de son oncle parce que son père est décédé tôt et que, selon la loi du Lévira, le frère de son père alors a pris la relève pour subvenir aux besoins de la veuve. Alors il peut être dit le fils, donc ils sont adoptifs, de son oncle, et, ou bien le fils de son père, de son géniteur effectif. C'est pour ça qu'il y a une petite difficulté, mais en tout cas il était le petit-fils du dernier roi qui avait régné, la dernière génération des rois de David qui avait régné. Ce n'était donc pas n'importe qui, ce n'était pas non plus un Perse, c'était un Judéen, un Israélite, ce Zorobabel. Et à cause de ça, bien que son pouvoir ait été un pouvoir délégué de l'empereur païen, il représentait quand même la fidélité à la dynastie de David pour ces Judéens qui étaient là rassemblés. Donc, Dieu parle à ces deux responsables, mais par l'intermédiaire d'Agé. Voici les termes de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agé. « Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées, alors que ce temple est en ruine ? » Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. « Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, vous êtes rassasiés sans étancher votre soif. » Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois, et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'y serai glorifié, déclare l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, mais vous avez obtenu peu. Vous aviez engrangé ce que vous aviez récolté, et j'ai soufflé dessus. « Pourquoi donc l'ai-je fait ? » demande l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. « Parce que mon temple est en ruine, tandis que vous courez chacun pour sa maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la pluie. Voilà pourquoi la terre a refusé ses fruits. C'est à cause de vous. J'ai appelé la sécheresse sur les champs et sur les monts, sur le blé, sur le vin, sur l'huile et sur tout produit du sol, ainsi que sur les hommes, sur le bétail et sur le fruit, sur tout le fruit de vos travaux. » Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Yoatsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu. Ils écoutèrent les paroles du prophète Agé, que l'Éternel leur Dieu leur avait envoyées, et le peuple eut du respect devant l'Éternel. Alors Agé, le messager de l'Éternel, transmit au peuple le message suivant de la part de l'Éternel. « Moi, je suis avec vous, l'Éternel le déclare. » Et l'Éternel anima de nouveaux zèles Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, Josué, fils de Yehotsadak, le grand prêtre, et tout le reste du peuple, de sorte qu'ils vinrent et se mirent à l'ouvrage au temple du Seigneur des armées célestes, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois de la 2e année du règne de Darius. Voilà ce premier chapitre. Vous avez un petit peu le climat de l'époque qui vous est restitué au moyen de cette lecture, vous pouvez mettre dans la situation où Agé et Zacharie aussi se sont trouvés. Alors que dire donc d'abord de ces deux hommes que Dieu a choisis et envoyés? Il faut avouer que l'information dont nous disposons dans les pages de la Bible est mince, maigrelette à leur sujet. Il y a quelques données, mais vraiment pas beaucoup, et quelques indices, des choses qui nous font penser que, mais ce n'est pas tout à fait sûr, avouons-le. D'après ces indices, les deux hommes ont été fort différents, à beaucoup d'égards. Et j'y vois déjà une leçon spirituelle pour nous. Dieu choisit des gens parmi les humains de toutes sortes, très différents. Il se plaît à nous faire différents et il n'est pas lié à un seul profil professionnel lorsqu'il veut susciter un prophète, lorsqu'il veut agir au milieu des siens. Il peut utiliser les gens les plus divers, des gros, des maigres, etc. Bon. Agé, il semble bien qu'il devait être fort âgé lorsqu'il a ainsi prêché le 29 août 520 et les mois qui ont suivi. Nous n'en sommes pas sûrs, sa date de naissance ne nous est pas donnée. Mais il y a des indices qui vont dans ce sens. Voici les indices. D'abord son nom. Son nom, en hébreu, ça ne sonne pas du tout comme en français. C'est Haggai. Haggai. Et Haggai vient de Fait, qui se dit Hag. Sans doute, le nom que ses parents lui ont donné veut dire le festif, l'enfant de la fête. Et ce nom lui a sans doute donc lui a été donné parce qu'il était né le jour d'une des grandes fêtes d'Israël. Il y avait trois grandes fêtes dans le calendrier que Moïse avait fixé. La fête de la Pâque, la fête des semaines et la fête des tabernacles avec le grand jour des expiations qui était compris. Chaque fois c'était plus qu'un jour. Hein. C'était vraiment un moment dans l'année de grandes fêtes pour tout le peuple. Avec pèlerinage à Jérusalem pour une bonne partie de la population. Il est probable qu'il était né un jour de fête, mais les fêtes n'avaient plus eu leur éclat après la destruction du temple. À partir du moment où l'exil avait dispersé et déporté une bonne partie des Israélites dans la dépression terrible qui avait saisi ceux qui s'étaient fait tant d'illusions si longtemps, mais qui maintenant voyaient leur pays ravagé et le temple de l'Éternel en ruine, il est à supposer qu'il n'y avait pas le climat de la fête. Est-ce qu'on a encore respecté quand même les temps de fête? En tout cas, on ne pouvait plus célébrer les fêtes selon la loi de Moïse, puisque c'était hors du pays. Donc si les parents ont appelé l'enfant qui est né l'enfant de la fête, c'est sans doute qu'il est né à une époque où les fêtes étaient encore pleinement célébrées. Premier indice, qu'il a dû naître avant 587. Vous voyez la logique de ce raisonnement. Deuxième indice, au chapitre 2 et au verset 3, ça je ne l'ai pas encore lu, il interpelle ses concitoyens au moment où le temple est à peu près fini, qui se sont mis à reconstruire, et il exprime très ouvertement le sentiment qu'ont sans doute plusieurs. Ceux qui ont vu le temple d'autrefois, bah, ils en ont un peu gros sur le cœur, parce que le temple reconstruit, oui, il fait minable à côté du temple d'autrefois, celui que Salomon avait fait, qui était une des splendeurs de tout du monde entier. Ils ont bien reconstruit, mais si Agé est capable de faire lui cette comparaison, c'est probablement qu'il a vu lui-même. Bon, il ne le dit pas carrément, donc c'est pour ça que c'est pas une preuve, hein. Mais c'est probablement qu'il a en lui le souvenir visuel de ce temple d'autrefois. Autrement, il ne penserait pas, sans doute, à faire la comparaison comme il l'a fait. Il leur dit, qui sont parmi vous ceux qui ont vu le temple d'autrefois? Oui, ce temple maintenant vous paraît une misère. Mais en leur disant ça, il montre que lui-même sans doute avait cette possibilité de comparaison. Et alors, ça nous fait remonter, voyez, ça nous fait remonter même avant 587, parce qu'il faut qu'il ait un souvenir visuel, donc ça remonte pratiquement à 595 pour sa naissance. Qu'il a eu 7-8 ans, au minimum, au moment où le temple a été détruit. Et puis, troisième indice, il a prêché du 29 août jusqu'à décembre 520, après ça, plus rien, on n'entend plus parler de lui, rien d'autre. Alors, ça laisse supposer qu'il n'a pas survécu beaucoup. Bon, de nouveau, ce n'est pas une preuve, mais c'est aussi un indice. Tous ces indices vont dans le même sens, de telle sorte que je considère comme très plausible qu'il avait 75 ans, peut-être même un peu plus, au moment où il a apporté son message. Voilà un élément quant à son personnage. Pour le reste, c'est son caractère, ses dons, son tempérament qui se révèle dans son livre, qui nous permet donc d'en dire quelque chose. Il semble qu'il ait été l'homme d'un robuste bon sens, un prédicateur direct, disant les choses, appelant un chat un chat. Un refrain qui revient, vous l'avez entendu dans la lecture que nous avons faite, c'est « Réfléchissez bien ». Réfléchissez bien à ce qui se passe. Et il y revient encore au deuxième chapitre, au verset 15 et 18, et dit au verset 18 deux fois. Et non seulement il a cette remarque, qui me semble-t-il tout à fait caractéristique, c'est lui seul qui parle de cette façon, me semble-t-il, mais il s'intéresse à la situation économique. Il parle très brutalement des choses qui se passent. Vous travaillez dur, vous avez des espoirs, et puis finalement, ceinture, et l'argent que vous gagnez va dans une bourse trouée. Une allusion, semble-t-il, au phénomène de l'inflation. On gagne de l'argent, mais il vaut de moins en moins, donc c'est comme si la bourse était trouée. Et puis, il ne renvoie pas dire à ses concitoyens. Vous voyez comme il les interpelle. Il me semble que c'est ce qui caractérise ce prophète. Peut-être était-il un homme d'affaires, peut-être était-il un homme qui avait passé son temps à gérer de manière réaliste les choses concrètes, et alors il reste sur ce registre. En même temps, il connaît bien sa Bible, les livres qui avaient été écrits à son époque. On voit qu'il fait des allusions aux promesses précédentes, j'y reviendrai dans un instant, qu'il est aussi un prophète dans la continuité des porte-paroles de Dieu. Il fait allusion aux promesses faites à David, à l'ancienne alliance, etc. Donc nous y reviendrons, ce n'est pas seulement un réaliste avec un bon sens, il est aussi un prophète qui a vraiment compris les voies de Dieu. Zacharie, lui, semble avoir été tout différent. D'abord, probablement un jeune homme. D'après nombre de commentateurs, ce qu'on trouve au chapitre 2 et au verset 8 de son livre nous permet de l'affirmer. Bon, ce n'est pas unanime, la Bible à la colombe a une note qui va dans un autre sens, mais la Bible évangélique, New International Version, le dit très, très clairement, moi je pense que, et d'autres commentateurs sont d'accord, de toute tendance. Il a une vision au chapitre 2 de Zacharie, et il voit des anges, et alors un ange dit à un autre, « Cours dire à ce jeune homme là-bas », chapitre 2, verset 8, « Qui est ce jeune homme ?» D'après la plupart des commentateurs, c'est Zacharie. Zacharie, donc, devait être, au contraire d'Agé, un jeune homme, lui, en 520. Ce qui va dans le même sens, c'est que lui a eu un ministère bien plus long après, et même il semble que le ministère auquel correspondent les chapitres 9 à 14 de son livre se situe 40 ans plus tard, vers 480. C'est l'évaluation que font les spécialistes évangéliques en général. D'après les allusions aux Grecs qui y sont faites, on pense donc que lui qui a commencé à prophétiser vers 520 a de nouveau eu une vague de révélations qu'il a consignée dans les chapitres 9 à 14 vers 480, peut-être même encore plus tard. Alors ça veut dire qu'il était jeune en 520, qu'il a eu une autre période de prophétie très nombreuse vers la fin de sa vie, 60 ans, 70 ans peut-être. Donc c'est un nouvel indice que Zacharie, lui, au contraire, était jeune. Et puis Zacharie était fils de prêtre. Zacharie était, on nous dit souvent, fils d'Ido, mais en fait c'était petit-fils d'Ido. Fils dans l'Ancien Testament, ça veut souvent dire petit-fils, descendant simplement. Alors il était fils de Bérékia, fils d'Ido, un chef de maison sacerdotale. Donc il était d'une lignée de prêtres. Probablement son père Bérékia était mort assez jeune, donc la succession dans la responsabilité de prêtre était passée d'Ido à Zacharie. Mais ça voulait dire qu'il s'était préparé depuis sa jeunesse au service particulier de la parole de Dieu. L'espoir aussi de servir dans le temple peut-être. Mais les prêtres étaient aussi les enseignants, hein, c'était les enseignants dans le peuple d'Israël. Donc on pourrait dire qu'il avait, lui, une formation de théologien. Et ça se voit dans sa manière d'écrire. Si Aggé, c'est le prophète que j'ai décrit il y a quelques instants, Zacharie, c'est vraiment le théologien qui montre à tout moment qu'il a lu tous les livres qui étaient là. Il connaît tous les anciens prophètes, qui est spécialement marqué par Ézéchiel, qui était aussi un prêtre prophète, on a pu dire que le procédé de Zacharie était le procédé anthologique. Vous savez, quand on fait une anthologie, c'est un livre où on met des textes de tous les grands auteurs. On fait une anthologie des auteurs français du XVIIIe siècle, bon, ben vous avez des grands textes. Le style de Zacharie est appelé anthologique parce qu'on a l'impression qu'il a lu et relu tous les textes des grands auteurs prophétiques avant lui. Il y fait des allusions, c'est truffé de réminiscences. Alors c'est plus difficile à décoder. Zacharie est un des prophètes les plus difficiles, voyez, parce qu'il y a tout un travail technique. C'est un théologien raffiné, donc pas du tout le même tempérament que celui d'Aggé. Cela correspond à ce que je vous ai dit sur cette liberté qu'a le Seigneur d'utiliser des gens très divers au debout de l'échelle des âges et selon des tempéraments et des formations qui sont opposées mais complémentaires. Voilà pour les deux hommes ce que je pense nous pouvons déterminer avec un assez bon degré de vraisemblance, de plausibilité, de probabilité même. Alors maintenant, un résumé du message d'Aggé, ou Haggai, du message donc de ce prophète. Je pense qu'on peut dire qu'il y a trois mouvements dans la prédication d'Aggé. Il y a la répréhension, il y a l'explication et il y a la promesse. Alors la répréhension, j'en ai déjà un petit peu parlé, et ce que nous avons lu vous a permis déjà de vous en rendre compte. C'est d'abord pour faire des reproches au nom de l'Éternel qu'Aggé parle. Que reproche-t-il à ses concitoyens? C'est très simple. Ils ont été finalement négligents et égoïstes en ne reprenant pas le travail de construction qui avait été ébauché en 536. Finalement, ils sont toujours là à se trouver de mauvaises excuses et à dire « c'est pas encore le moment ». C'est pas encore le moment de rebâtir le temple, il y a des obstacles, non, il faut attendre une occasion plus favorable. Ils trouvent toujours de bonnes raisons pour ne pas faire. Et en attendant, ils ont construit leur maison, ils ont réussi à recouvrer un certain confort, des maisons lambrissées, dit le prophète, et il attaque donc très très fort, c'est la réprimande pour cette hiérarchisation des choix que ses concitoyens ont fait et qui est contraire à la crainte et à l'amour de Dieu. Ils ont mis Dieu en deuxième, troisième, énième position, en mettant leur propre maison, leur propre confort au premier rang. Donc, il attaque là-dessus, très simplement, très clairement, et c'est un message qui n'a pas besoin, je crois, de développement. Nous sentons tous à quel point il peut nous toucher. Il y a aussi une accusation de négligence un peu différente au chapitre 2, que je vous fais remarquer. Agé l'a associé à une sorte d'illustration, leçon de choses, illustration. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Demande donc aux prêtres, verset 11 et suivant, leurs instructions. Dis-leur, si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande sainte, et que ce pan de vêtement entre en contact avec du pain, un mets cuit, du vin, de l'huile, quelque autre aliment, l'aliment touché sera-t-il consacré ? Non, répondirent les prêtres. Alors Agé le redemanda, si un homme s'est rendu rituellement impur par le contact d'un cadavre et touche à ses aliments, ceux-ci seront-ils rendus impurs par là ? Oui, répondirent les prêtres, ils seront impurs. Alors Agé reprit et dit, ainsi en est-il de ce peuple. Voilà ce qu'est cette nation à mes yeux, l'Éternel le déclare. Ainsi en est-il de toute leur réalisation et de tout ce qu'ils m'offrent là, c'est impur. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple, mais l'illustration était tout à fait parlante pour les compatriotes d'Agé, mais pour nous c'est un peu compliqué, nous n'avons pas l'habitude de la loi. Ce qui est en cause, c'est l'idée de contamination. Qu'est-ce qui s'attrape ? Est-ce que c'est la saleté ou c'est la propreté ? C'est ça, en fait. Vous avez un chiffon plein de cambouis, puis un beau mouchoir propre, vous les frottez ensemble, qu'est-ce qui gagne ? La saleté ou la propreté ? C'est ça. Avec la loi de la pureté rituelle, ça correspond à saleté et propreté, si vous voulez. Agé fait répondre au prêtre, qui était chargé de donner ses réponses, voyez, que c'est la saleté qui gagne, l'impureté qui gagne. Si vous avez de la viande pure, qu'elle touche autre chose, elle ne purifie pas le reste. La pureté n'est pas contagieuse. En revanche, si vous avez touché un cadavre, chose impure, d'après la loi de Moïse, si vous touchez autre chose, alors ça devient impur. L'impureté, elle est contagieuse. La saleté, ça s'attrape, mais pour la pureté, il faut vraiment vouloir la pureté. Il faut nettoyer, il faut purifier des fautes. Et la leçon spirituelle, il la donne. Vous croyez que vous m'offrez un service que je peux agréer, mais non, il est impur. Vos négligences, les péchés que vous commettez font que tout ce que vous m'offrez, vous croyez que c'est très bon, en fait, est gagné par l'impureté. L'impureté de votre conduite gâte tout. Voilà le reproche que fait Agé à ses concitoyens. Et de nouveau, l'application spirituelle est évidente pour nous, ce qui d'ailleurs peut nous faire crier de désespoir. Ça nous montre bien que si nous devions compter sur nos œuvres pour être agréés de Dieu, jamais nous n'y arriverions. Une seule mouche morte gâte tout le parfum du parfumeur, dit l'Ecclésiaste dans le même sens. Il suffit d'une seule racine d'orgueil dans de bonnes œuvres, courageuses, à bien des égards, généreuses, pour que tout soit gâté aux yeux de Dieu, parce qu'il a les yeux trop purs pour voir le mal. Alors, vraiment, il faut que ce soit la justice parfaite de Jésus qui nous couvre et qui rende même acceptables les dons que nous apportons. Ils ne peuvent être acceptés par Dieu et lui faire plaisir que s'ils sont purifiés, parce qu'il les voit à travers Christ. Bon, ça c'est donc le premier élément du message d'Agé. Deuxième élément, l'explication. Il part des faits et il donne l'explication. Quels sont les faits ? Là aussi, j'ai frôlé le sujet il y a un instant. C'est la crise, comme nous dirions aujourd'hui, la crise dont souffre tout spécialement l'économie de la petite communauté. La météo n'a pas été favorable, il y a eu de la sécheresse, Alors ils ont beaucoup semé, ils ne peuvent moissonner que très peu. Ils avaient espéré, puis non, ça y est, c'est raté. Et alors l'inflation, du coup, gagne. C'est cette situation critique qui est en cause. Alors il donne l'explication. Réfléchissez un peu, comprenez. En fait, cela fait partie des châtiments par lesquels le Seigneur veut vous éduquer. Il veut vous faire comprendre que vous faites fausse route et que vos choix, vos priorités ne sont pas les choix et les priorités que Dieu veut. Donc il leur dit clairement au chapitre 1er, puis il y revient encore au chapitre 2, à partir du verset 15. Considérez attentivement ce qui se produira. Vous alliez à un tas de blé supposé contenir deux quintaux, mais il n'y en avait qu'un seul. Vous vous rendiez au pressoir, vous espériez obtenir un hectolitre de vin, et vous ne trouviez que 40 litres. Je vous ai frappé, châtié en frappant le fruit de votre travail par diverses maladies de céréales, par la grêle, mais vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Le sujet de ces fléaux, on dit naturel ou qui échappe à l'initiative individuelle, est un problème délicat à traiter. Dans l'Ancien Testament, c'était plus simple qu'aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, parce que c'était un peuple que Dieu avait choisi parmi tous les peuples, avec sa terre, avec donc ses institutions extérieures, il y avait une relation simple entre la bénédiction et l'obéissance. Et les châtiments et la désobéissance. À coup sûr, on ne peut plus en dire autant aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes un peuple répandu à travers tous les peuples, un peuple dans un sens très spécial, transposé, nous le peuple de l'Église. Et nous savons que le royaume de Dieu est établi dans les cœurs, mais pas de façon extérieure, que nous aurons des afflictions dans le monde. Alors, nous ne pouvons pas dire, ce sera automatique, l'obéissance va nous permettre d'être prospères, d'avoir de belles récoltes, des revenus élevés. C'est pas possible dans le cadre de la Nouvelle Alliance, et même dans l'Ancienne, il y avait des exceptions, comme l'histoire de Job nous le montre assez. Cependant, même si on dit donc, on ne peut pas établir une telle relation, aujourd'hui, il n'y a rien d'automatique, il reste que les épreuves, et aussi collective pour un pays, pour une église. Les épreuves peuvent être des châtiments de Dieu et des signaux qu'il nous adresse pour nous arrêter sur une voie funeste. Je crois que nous avons pris l'habitude de ne plus penser du tout à ça, à cette possibilité, que lorsqu'il y a des choses négatives, ce peut être une démarche par laquelle Dieu nous avertit. Donc il faut se rappeler que c'est encore possible sous le régime de la Nouvelle Alliance, où nous sommes également. Dieu a envie de faire du bien, dès maintenant, à ses enfants. Et s'il leur arrive des malheurs, ou bien c'est que c'est nécessaire à leur éducation pour les avertir, pour les détourner, ou bien que Dieu se glorifie d'une autre façon, à la manière de Job. Parce qu'il montre ainsi qu'ils ne servent pas Dieu pour un certain profit, parce que leur témoignage dans ces jours d'épreuve peut gagner beaucoup d'autres. Donc Dieu a toujours des raisons. Il souhaite faire du bien, et matériellement, corporellement, à ses enfants, dans le temps présent. Et quand il ne le fait pas, il y a d'autres raisons. Et parmi ces raisons, il peut y avoir aussi les avertissements qu'il nous adresse. Donc je crois que par rapport aux explications données par le prophète, nous en avons quand même toujours de la graine à prendre, même après plusieurs milliers d'années. Et puis troisième élément, la promesse. Il y a la promesse de la prospérité à court terme dans le cadre de cette vie israélite sous l'ancienne alliance. Ça va aller mieux, dit le prophète. Maintenant que vous vous êtes ressaisi, que vous avez rebâti le temple, eh bien vous allez voir, la prospérité va revenir. C'est ce que dit le verset 19 du chapitre 2 en particulier. Reste-t-il encore de la semence dans vos greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien produit. Mais à partir de ce jour-ci, je répandrai ma bénédiction sur vous. Il leur dit clairement, vous allez voir la différence. Ça faisait partie de l'éducation du peuple. Mais il ne se contente pas de cette promesse à court terme. Il y a deux autres promesses qui regardent nettement plus loin. Lui ne savait pas quel serait le délai. En fait, ça a été plusieurs siècles. Mais les promesses sont très claires. Au chapitre 2, il parle de ce temple qui va maintenant être inauguré. Ah, les vieux qui se rappellent le temple de Salomon, le premier temple, ils disent, mais celui-là, quand même, c'est pas ça. Nous sommes rentrés en pensant à cause des prophéties que ça allait être encore plus beau. Et alors le prophète leur dit que la gloire de ce temple dépassera celle du temple ancien. Il le dit formellement. La gloire de ce nouveau temple, au verset 9, surpassera beaucoup la gloire de l'ancien. Je ferai régner la paix en ce lieu-ci, ou littéralement, je donnerai la paix. Et le mot de paix était lié à toute l'attente du Messie. Le Messie devait être le roi de paix, qui instaurerait enfin la paix. Un nouveau Salomon, mais plus satisfaisant que l'ancien, qui avait finalement moins bien fini que commencé. Le Messie, le roi de paix, en disant, la gloire de ce temple surpassera celle de l'ancien parce que je donnerai la paix. Je crois qu'on peut très bien comprendre que le prophète annonce que le Messie viendra dans ce temple. Et que c'est ça la grande promesse. Encore un peu de temps et j'ébranlerai l'univers, les cieux et la terre, dit ce passage, et la gloire de ce temple surpassera celle de l'ancien. Est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que ça va se réaliser? Si ça ne s'est pas réalisé, ça ne se réalisera jamais. Parce que, ça à mon avis, c'est très important pour le dialogue avec les Juifs, qui croient en la vérité inspirée de ces paroles, parce qu'il s'agit du second temple, en tant que différent du premier, dans son identité de second temple par rapport au premier. Puisque c'est à partir de la comparaison entre les deux que la chose est dite. Ah, ce second temple, il fait minable à côté du premier. Bon, eh bien, dans ce temple, par rapport à l'ancien, le second temple, je donnerai la paix. Or, le second temple, le judaïsme le reconnaît parfaitement, ça s'appelle les jours du second temple, dans la terminologie des juifs, c'est celui qui a duré jusqu'en 70 du premier siècle de notre ère. Qui a été détruit par les armées romaines, conduites par Titus, en 70. Donc il n'existe plus. Si jamais le temple était rebâti, ce serait le troisième, ce ne serait plus le deuxième, et on ne pourrait pas dire que cette prophétie serait accomplie en lui. Donc, si la prophétie ne s'est pas accomplie, elle ne peut pas s'accomplir, et le prophète est menteur. Mais elle s'est accomplie. Car dans ce second temple, qui a été embelli en dans le processus, mais c'est toujours le même temple, embelli par Hérode en particulier, notre Seigneur Jésus a enseigné très souvent, il y est monté selon le témoignage des évangiles, oui, il a donné la paix. Lui, le Messie, a été dans ce temple, et ainsi la gloire de ce temple surpasse infiniment celle du temple de Salomon, car il y avait en lui tellement plus. Quand Salomon, il y a ici plus que Salomon. Vous voyez, cette prophétie est extraordinaire parce qu'elle elle précise la période. On ne peut pas jouer en disant c'est une autre période, c'est celle-ci. Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli, et l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, nous n'avons pas le temps de développer, mais montre que le grand ébranlement dont parle le prophète, c'est celui de l'instauration même de la nouvelle alliance. Comme il y avait eu un grand ébranlement lors de la conclusion de la première alliance, le Sinaï avait tremblé, il y a eu un autre grand ébranlement pour la conclusion de la nouvelle alliance, c'est définitive, non seulement de la terre, mais des cieux. C'est tout le monde spirituel qui a été ébranlé par l'instauration de la nouvelle alliance. Et c'est tout. Maintenant, c'est un régime définitif, dit l'Épître aux Hébreux, la fin du chapitre 12. Et puis cela est lié, dans le livre d'Agé, j'achève par là, par une parole dite à Zorobabel. Verset 21, c'est la fin du livre, dit à Zorobabel, gouverneur de Juda, « J'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre. » C'est dans la perspective de ce grand ébranlement. « Je renverserai les trônes des royaumes, j'anéantirai la puissance des royaumes païens, je ferai culbuter les chars de guerre et ceux qui les conduisent, les chevaux tomberont, les cavaliers s'entretueront. En ce jour-là, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, je te prendrai, Zorobabel, toi, fils de Shealtiel, mon serviteur, oui, l'Éternel le déclare, et je ferai de toi comme le sceau qu'on porte au doigt, car moi, je t'ai choisi. » Voilà ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Que veut dire cette parole ? Je ferai de toi le sceau qu'on porte au doigt. Cela veut dire, je t'attacherai à moi d'une façon indéfectible. Rien ne pourra te séparer de moi. Un homme important, pas seulement un roi, mais aussi les grands, les riches, avaient un anneau à cachet qui leur servait à mettre leur marque sur un document. On en a retrouvé d'ailleurs les archéologues, et en particulier l'archéologue Pierre Bordreuil, spécialiste des sceaux retrouvés dans l'Ancien Orient. C'était l'équivalent de la signature. Quand vous signez un chèque, vous savez l'importance que ça peut avoir. Eh bien, c'était l'anneau à cachet. Alors justement, on le donnait à personne d'autre, on ne s'en séparait pas. Parce que si quelqu'un d'autre l'avait pris, c'est comme quand on vous vole un chéquier, puis qu'on réussit à imiter la signature, ou qu'on connaît le numéro de code de la carte, etc. L'anneau à cachet, c'était ce que quelqu'un gardait toujours avec lui. Eh bien, l'Éternel dit à Zorobabel, je ferai de toi comme un anneau à cacher à mon doigt. Une proximité et une liaison impossible à casser. Mais alors, est-ce que c'est à Zorobabel, à titre personnel, que cette promesse s'est appliquée ? Certains le prennent comme ça. Alors, comme on ne connaît pas la suite de la vie de Zorobabel, on ne peut pas très bien s'en rendre compte. Mais moi, je ne pense pas que ce soit la bonne interprétation, car c'est dans la perspective du grand ébranlement dont le premier oracle du chapitre 2 parle. C'est ce grand ébranlement. Et Zorobabel, il ne figure pas dans cette histoire à titre individuel, mais comme le représentant de la lignée davidique. Il est, en cette génération, le fils de David. Donc il représente le fils de David à venir. Il est là une figure de Jésus-Christ. Et je pense que la promesse vise en réalité ce fils de David, que Zorobabel représentait Jésus-Christ. Ce qui veut dire que cette prophétie vient s'associer à celle du début du chapitre. Vous voyez la splendeur des promesses. Et alors, si nous disons que Zorobabel est ici le représentant de Jésus-Christ, nous découvrons une raison, et je conclue par là, de cette disposition de l'histoire que j'ai schématisée au tableau. J'espère que vous vous y retrouvez. Zorobabel a été le restaurateur. Eh bien, en tant que tel, il est aussi un type de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ, il est le nouveau David, le nouveau Salomon, mais il est aussi le restaurateur par rapport à la ruine de l'ancienne alliance. Donc il est le nouveau Zorobabel en même temps. Cette disposition fait que la nouvelle alliance est préfigurée en tant que nouvelle, mais aussi en tant que restauratrice de l'ancienne. Vous voyez le raffinement de l'architecture du plan de Dieu. Je pense que nous pouvons vraiment nous en émerveiller. Voilà ce que j'avais à vous communiquer sur Agé. Bon, l'heure est juste arrivée. Est-ce que moi, je suis prêt à répondre encore à une ou deux questions, mais si les gens doivent partir. De toute façon, donc, je vous ai proposé une séance pour des questions qui seront ratissées sur tout le champ des livres prophétiques. D'accord. Merci bien.